comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Face à l'émergence de nouveaux virus, les regards se tournent vers les chercheurs et espèrent des réponses de la communauté scientifique. Promesse d'un traitement efficace et pourquoi pas la solution ultime pour se protéger, le vaccin. Mais aujourd'hui, la planète se retrouve confrontée à un paradoxe. Face à des maladies contagieuses et potentiellement dangereuses, on dispose de vaccins efficaces et pourtant, ces maladies font leur retour dans des régions où l'on pensait en être débarrassé. Aujourd'hui, c'est le cas pour la rougeole. Retour de la rougeole à un tel point que l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Flambée planétaire, une hausse d'environ 50% des cas en 2018 par rapport à l'année précédente. Et la rougeole s'invite jusque dans les journaux télévisés. Le gouverneur de l'État de Washington a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 25 janvier dernier. Gros titre récemment sur cette épidémie dans une station de ski des Alpes à Val Thorens, ou sur cette famille de touristes français placés en quarantaine au Costa Rica. Derrière ces informations, une explication, le recul de la couverture vaccinale, insuffisance, défiance, lourde de conséquences en termes de santé publique, qui viennent d'ailleurs de pousser deux grands réseaux sociaux, YouTube, Pinterest, à prendre des mesures concrètes pour tenter d'enrayer la diffusion des fake news sur les vaccins par leur intermédiaire. Recrudescence des maladies évitables, au nombre desquelles donc la rougeole. Rougeole, notre sujet du jour dans Priorité Santé. Et pour en parler avec nous en studio, professeur Catherine Veil-Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, professeur honoraire des universités à Paris 7, spécialisée en vaccinologie.
Oui, bonjour. Et ayant beaucoup travaillé dans le domaine de la vaccinologie, qui s'étend à beaucoup de domaines scientifiques et humains, je veux signaler aux auditeurs que mes liens d'intérêt sont trouvables sur le site français santé.transparence.gouv.fr.
Flambée planétaire, épidémie dans le sud-est de la République du Congo, dans l'ex-province du Katanga, où Médecins sans frontières intervient en ce moment. Nous retrouverons tout à l'heure Juliette Alivier, coordinatrice projet pour MSF, infirmière de formation. Tout à l'heure, nous donnerons aussi la parole à François Salvadori, docteur en pharmacie, immunologie, virologie, maître de conférence à la Fac des sciences de l'Université de Bourgogne. Elle a signé avec Laurent-Henri Vigneault le livre « Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours » publié aux éditions Vendémiaire. Et puis si vous avez des questions à poser sur la rougeole, notre numéro 33 84 22 75 75. En fin d'émission, à l'occasion de la 12e journée internationale des maladies rares, nous retrouverons en ligne Adèle Bounif, déléguée régionale Grand Est de l'association Alliance Syndrome de Dravet, père d'une petite fille atteinte de cette forme grave et précoce d'épilepsie d'origine génétique.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Catherine Veil-Olivier, avant de comprendre pourquoi la rougeole connaît en ce moment une telle flambée, avec les chiffres qui se confirment en ce début 2019, d'abord, description de la maladie, tout simplement, les symptômes de la rougeole.
Oui, alors la rougeole est une maladie que beaucoup de nos compatriotes français ne reconnaîtront plus, puisque grâce à la vaccination, le nombre des cas a considérablement diminué. C'est une maladie dite éruptive, donc il y a une éruption qui apparaît. L'un des points importants à comprendre, c'est que la maladie est contagieuse avant l'apparition de l'éruption, et ceci pendant environ 4 jours avant celle-ci. À partir du moment où l'éruption apparaît, c'est une éruption de la peau avec une atteinte des muqueuses, en particulier les conjonctives. Il y a ce qu'on appelle un catarrhe, c'est-à-dire un écoulement du nez. Et quand la maladie se déroule favorablement, ce qui heureusement est quand même assez fréquent, l'éruption dure quelques jours et va régresser, et l'enfant guérira. Néanmoins, on sait que la rougeole est une maladie qui fatigue énormément et qui déprime l'immunité pendant quelques semaines. Et donc, il n'est pas rare d'avoir des complications, dont la pneumonie, qui survient dans environ 5% des cas, et une encéphalite qui est observée chez un enfant sur 1000 rougeoles. Alors vous me direz, c'est très peu. Néanmoins, dans l'épidémie que nous avons eue il y a quelques années en France, qui était très violente, il y a eu plusieurs cas d'encéphalite et quelques décès. Et personnellement, je considère qu'il est inacceptable d'observer des décès liés à cette maladie dont on peut parfaitement protéger les enfants.
Il faut corriger l'idée, hein. On entend des fois ces fausses croyances. En tout cas, ce qui circule, c'est de dire, ben, finalement, la rougeole, pour une génération antérieure, tout le monde l'avait, on n'en faisait pas, hein, si je puis m'exprimer ainsi, tout un plat. Pourquoi, aujourd'hui, les gens ont peur de la rougeole? Pourquoi aujourd'hui c'est si important de se vacciner?
On a peur de la rougeole parce que c'est une maladie qui est source de complications, comme je vous l'ai dit, d'une grande fatigue générale, dont une dépression de l'immunité temporaire, parce que c'est un arrêt de travail pour la famille, parce que c'est une désorganisation de la vie familiale pendant quelques semaines, et parce que c'est une maladie extraordinairement contagieuse. On dit que quand un enfant ou un sujet a la rougeole, autour de lui, potentiellement, 10 à 20 personnes vont attraper le virus de la rougeole. C'est un virus qui circule dans l'air et qui se transmet par les gouttelettes quand nous parlons, quand nous toussons, quand nous éternuons.
Alors justement, sur ce degré de contagion, en fonction des différentes maladies, on a comme ça une sorte de hiérarchie de la contagion. Et vraiment, la rougeole, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Vous avez totalement raison. Si j'utilisais un terme de santé publique qui est le taux de réplication, est un des plus élevés pour la rougeole. Et donc, c'est vraiment le...
Bien supérieur à la grippe, par exemple.
Bien supérieur à la grippe, oui. Au moins environ 10 fois supérieur à la grippe. Tout le monde connaît la grippe et admet la grippe, à tort d'ailleurs, puisqu'il y a des vaccins aussi pour se protéger. Et la rougeole, l'un des éléments importants aussi, c'est qu'on ne peut pas définir une population plus vulnérable qu'une autre pour attraper la rougeole. Un enfant qui va parfaitement bien risque d'avoir la rougeole quand il y a dans son environnement immédiat un cas de rougeole. Donc c'est vrai que le problème actuel se focalise sur des groupes de population insuffisamment ou non vaccinés vis-à-vis de la rougeole. Le virus de la rougeole continue de circuler dans nos pays et tant que nous n'avons pas atteint une immunité suffisante de la population, nous n'arriverons pas à éliminer complètement la maladie. Alors, ceci qui se passe dans tous les pays d'Europe qui ont des bouffées épidémiques, dans les pays d'Afrique résiduels qui ont encore une couverture un petit peu insuffisante, et aux États-Unis, ce qui est décrit de façon très violente dans au moins 2 États, dont l'État de Washington et New York.
Alors, on va justement continuer à essayer d'expliquer toutes les causes de ce retour, de cette flambée épidémique, mais on va tout de suite répondre aux premières questions des auditeurs.
RFI.
Avec ce premier appel de Madagascar, de la ville d'Antsirabe, où l'on retrouve Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, on écoute votre question.
Oui, alors ma question, nous avons tous été vaccinés d'enfants et actuellement à Madagascar, il y a une épidémie de rougeole. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y a, y a-t-il des précautions à prendre si on ne veut pas l'attraper à l'âge adulte?
Alors, madame, votre question est d'abord très intéressante. Je crois que j'ai envie de vous demander combien de doses ont reçu ces personnes dans l'enfance, à quel âge, parce que c'est très important. Et ça m'amène à vous dire que le vaccin contre la rougeole est plus efficace à partir de l'âge de 1 an. De temps en temps, dans des contextes épidémiques, on est amené à vacciner dès l'âge de 6 mois, mais pas avant, parce qu'on sait que l'enfant porte encore des anticorps maternels. Et d'autre part, on sait aussi qu'il faut impérativement une deuxième dose, parce que toutes les personnes ne répondent pas de la même façon à une injection vaccinale. Il y a les bons répondeurs, il y a les moins bons répondeurs. On n'a pas de raison de tester dans la population les bons ou les moins bons répondeurs, mais on admet que la première dose vaccinale protège de la maladie à de l'ordre de 92% et qu'avec 2 doses de vaccin faits à au moins 1 mois d'intervalle, on protège à 98%.
Chantal, est-ce que vous avez cette information en souvenir? Vous souvenez à quel âge vous avez été vaccinée, même si c'est loin?
Et combien de doses
surtout?
Alors là, je peux pas vous dire voilà. Parce que ça remonte loin.
Non, mais bien entendu, donc,
Ça veut dire quoi, professeur Vaillolier, qu'il faut se faire revacciner?
Ce qu'on dit, en tout cas, dans nos recommandations actuelles, qui sont publiées chaque année et qui sont accessibles très facilement par le ministère de la Santé, c'est que des sujets qui sont nés avant 1980 dans une population française de métropole, je ne dis pas à Madagascar, mais en tout cas dans notre population, la probabilité qu'ils aient côtoyé le virus de la rougeole, acquis une immunité en faisant ou non une maladie, est extraordinairement forte. Donc nos recommandations ciblent les personnes qui sont nées depuis 1980, qui est la date d'introduction du vaccin. Et donc là aussi, vous voyez, pour des personnes en fonction de leur âge, on sait bien qu'il y a 30 ou 40 ans, les épidémies étaient violentes et que parmi elles, certains sujets feraient une maladie très grave avec des conséquences. Mais une majorité d'entre eux, malgré tout, seraient immunisés et l'immunité durerait à vie. Donc, il faut prendre en considération tous ces éléments avant de pouvoir vous dire avec précision ce qui serait utile aux membres de votre famille.
Donc, c'est en fonction de l'âge, c'est un critère très important.
Oui.
Voilà pour cette réponse, Chantal. On vous souhaite une très très bonne journée à Madagascar. On va prendre une autre question du Burkina Faso, de Kiembara, la ville de Kiembara, où Souleymane nous appelle. Bonjour Souleymane.
Bonjour.
Bonjour.
Le professeur Catherine Veil-Olivier vous écoute. On écoute votre question.
Ok, bon, j'ai dit que moi j'ai eu affaire à la rougeole en classe de CE2 quand j'avais 7 à 8 ans.
Mm-hmm.
Maintenant, bon, c'est parti, mais j'aimerais savoir maintenant, est-ce que je peux contracter encore cette maladie?
Alors, ma réponse va être simple, monsieur. Vous avez fait la rougeole. La rougeole est une maladie qui immunise à vie. Si votre immunité est en très bon état, la probabilité que vous risquiez d'attraper la rougeole est quasiment nulle. En revanche, si pour une raison ou pour une autre, vous avez une immunité un petit peu déficiente, à ce moment-là, je vous engage à contacter votre médecin pour voir si il considère raisonnable de vous protéger si vous êtes en présence d'une bouffée épidémique.
Professeur Catherine Veil-Olivier, pour parler concrètement, on imagine une personne, hein, je ne parle pas du tout de Souleymane bien évidemment, qui aurait contracté par exemple une tuberculose ou le VIH, dans ces cas-là, vaut mieux aller voir un médecin et voir pour la protection.
Oui.
C'est plus important, d'accord. Ou par exemple en France, si quelqu'un a un traitement par immunosuppresseur avec une immunité faible ou après un cancer, faire attention.
Je rappelle néanmoins à cette occasion que face à une immunité déprimée, quelle qu'en soit la raison médicale,
on a une vaccination.
Néanmoins, c'est un vaccin à virus vivant et celle-ci ne peut se faire que si on est retourné à un niveau d'immunité qui est correct.
Suffisant.
Donc il y a aussi d'autres stratégies qui est de ce qu'on appelle vacciner en couronne. Vous avez un environnement, des membres de votre famille avec qui vous vivez ou des amis très proches. On peut protéger ces personnes-là et elles vont former une couronne de protection autour de vous. Donc ça, c'est aussi une très bonne alternative.
Alors, on remercie Souleymane pour son appel. On lui souhaite une très, très bonne journée. Ce que vous venez de dire, professeur Catherine Veil-Olivier, ça dément par ailleurs des arguments des personnes qui sont contre les vaccins en disant « Moi, je ne suis pas vaccinée, je ne tombe pas malade. » Dans ce raisonnement, il y a un égoïsme total dans une société comme la nôtre qui est basée sur la solidarité et la santé publique.
Alors, vous avez totalement raison de parler de solidarité. Je considère que la vaccination est un des plus beaux actes de solidarité qui existent. C'est-à-dire, c'est vraiment protégeons-nous et protégeons les autres. Alors, on peut déjà réfléchir au sein d'une famille et d'une collectivité avec laquelle vous avez des liens très importants, parce que je crois que ça, personne ne songera à mettre en difficulté un environnement amical ou familial. Et si tout le monde adoptait cette attitude-là, je crois qu'on arriverait à comprendre que la vaccination, qui est un geste de santé publique et qui est un geste collectif, est en réalité une solidarité individuelle.
Même en y pensant simplement, tout le monde a son entourage, quelqu'un de fragilisé, de vulnérable ou qui a eu une maladie,
simplement.
Alors parmi ces chiffres de l'OMS, 229 000 cas recensés dans le monde pour 2018 et au nombre des pays européens les plus touchés, même le plus touché, on parle de l'Ukraine. Alors, cette tendance planétaire, on l'a dit, qui inquiète l'OMS, flambée de rougeole, qui concerne particulièrement certains pays, certaines régions du monde. Et c'est le cas de l'Ukraine, en ligne de Kiev. On retrouve le correspondant de RFI, Sébastien Gobert, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors pour commencer Sébastien, des chiffres, de quelles données disposez-vous au sujet de cette épidémie de rougeole, précisément pour l'Ukraine ?
Eh bien, pour 2019, il y a un peu plus de 24 000 personnes infectées par la rougeole. Ce sont 10 500 adultes et 13 500 enfants. La maladie a déjà tué 30 personnes depuis l'automne 2018, dont 9 depuis le début de cette année. L'incidence de l'épidémie est plus importante dans les régions ouest du pays, des zones rurales très conservatrices où beaucoup d'enfants vivent avec leurs grands-parents, puisque les parents travaillent à l'étranger. La progression de l'épidémie ralentit, mais la rougeole continue quand même à se propager. Par exemple, une vingtaine de policiers de la région d'Odessa, sur les bords de la mer Noire, sont en quarantaine après avoir contracté le virus. Avec ces chiffres, l'Ukraine représente le principal foyer d'infection en Europe. Et l'épidémie n'est pas encore finie.
Alors comment expliquer la hausse du nombre de cas, particulièrement dans ce pays, pays frontalier de la Russie ?
Ici, comme ailleurs dans le monde, le déclenchement de l'épidémie est dû à un faible taux de vaccination. En 2016, seulement 31% des enfants âgés de 6 ans avaient reçu leur rappel de vaccin. Après l'épidémie dramatique de l'an dernier, le taux de vaccination est remonté à plus de 80%, mais le problème reste général. On se souvient quand même qu'en 2015, la polio avait fait sa réapparition sur le continent européen pour la première fois depuis 2010, précisément ici en Ukraine. La défiance vis-à-vis des campagnes de vaccination est très importante ici. Pour expliquer cela, il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs scandales de vaccins de mauvaise qualité qui ont découragé les parents. Il y a aussi des explications pratiques au faible taux de vaccination, comme des problèmes d'achat, des problèmes d'acheminement, des problèmes de réfrigération des vaccins. Dans l'est du pays, la guerre a aussi désorganisé les structures de santé. Et aussi, dans le contexte ukrainien, il faut rajouter que les questions de corruption et de déficience des structures de l'État ont aggravé encore la situation.
Alors Sébastien Gobert, quelle est la réaction de ces autorités depuis que cette flambée a été signalée, depuis que l'épidémie s'est déclarée ?
La ministre de la Santé, Oulina Soproun, qui est une Ukrainienne issue de la diaspora, qui a grandi aux États-Unis, a mis en œuvre des mesures d'urgence, par exemple des cliniques mobiles pour distribuer les vaccins, ainsi que des campagnes d'information spécifiques qui ciblent non pas les parents, mais les grands-parents des enfants à vacciner. Mais cette réaction dans l'urgence montre bien que les institutions de la santé publique ne sont pas à même de prévenir ces crises de manière systémique. D'autant que l'affaire est aussi très politique, puisque certains partis bénéficiaient auparavant de circuits de corruption que la ministre Soproun a cassé et ils ont réussi à la suspendre de ses fonctions début février pendant quelques jours. Et ça a retardé la livraison de vaccins dans les régions. La réaction des autorités est donc assez inefficace, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on assiste à des changements, à un changement au sein de l'opinion où finalement, Sébastien, est-ce que cette flambée de rougeole en Ukraine n'a fait que conforter, figer les camps rivaux, les pros et les anti-vaccins ?
Non, là-dessus, il y a un véritable revirement de l'opinion publique en faveur d'une vaccination généralisée, et ça depuis quelques années. Mais en fait, ce que les familles attendent avant tout, c'est que les réformes promises par Oulina Soproun portent leurs fruits pour que la qualité des vaccins soit garantie, pour que les distributions soient régulières et suffisantes, que les installations hospitalières soient modernisées, et ainsi de suite. En fait, ici, la grande question de la vaccination, c'est celle de la confiance dans le système médical, et en Ukraine, on en est encore assez loin.
Merci beaucoup Sébastien Gobert, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en ligne de Kiev en Ukraine. On continue de parler de la rougeole dans Priorité Santé, flambée et constatée par l'Organisation Mondiale de la Santé. En toile de fond, cette défiance à l'encontre de la vaccination. Toujours avec nous en studio, professeur Catherine Veil-Olivier, avec cette tribune inédite hein, dans le temps pour les plus sceptiques, c'est bien sûr Internet, parce que si on parle de justement passage de ce message anti-vaccination, de cette forme de désinformation, on parle des médias, mais ce sont précisément les réseaux sociaux qui sont en cause.
Je crois que la diffusion de la parole à l'heure actuelle et la façon dont elle est déviée est quelque chose qui entre en ligne de compte. Comme je vous l'ai dit, la vaccination est un domaine vaste qui va de la science pure dans le travail de réflexion autour des vaccins à la diffusion et la promotion des campagnes de vaccination par les autorités de santé. Et je pense que l'exemple français depuis janvier 2020 2018 montre que quand les autorités de santé s'engagent, la population augmente sa marge de confiance, ainsi que les professionnels de santé.
Janvier 2018, vous faites référence à ces 11 vaccins obligatoires.
À la mise en place des recommandations obligatoires pour les enfants âgés de moins de 2 ans. Qui a été quelque chose qui a permis pour toutes les vaccinations de remonter les taux de couverture de façon significative. Remonter des taux de couverture, c'est abstrait pour toute personne. Ça signifie simplement qu'on améliore l'immunité générale de la population et que de ce fait, on évite qu'un certain nombre de bactéries ou de virus continuent à circuler avec la même fréquence.
Et d'ailleurs, avant cette mise en place de l'obligation, il y avait eu justement encore sur les réseaux sociaux beaucoup de bruit. Et puis finalement, on a vu que toute cette agitation a eu peu d'effets sur le comportement des parents.
Alors, je crois que c'est effectivement très intéressant de noter, et je termine pour moi ce que représente le domaine de la vaccinologie ou de la vaccination, c'est un domaine humain. C'est effectivement un geste qui s'applique à un individu, qui est partie prenante, qui doit mûrir la décision et accepter le geste et le favoriser. Même ou respecter ce qui est demandé par les autorités. Donc c'est vraiment un engagement personnel et on peut s'interroger sur certains groupes de personnes qui continuent à refuser de protéger leurs enfants, tirant bénéfice de tous les autres enfants et de toutes les autres familles qui ont, elles, accepté de faire vacciner. Et donc, il y a là, je trouve, un déséquilibre de notre société qui mériterait d'être réfléchi.
En tout cas, une défiance dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais ce mouvement hostile à la vaccination, eh bien, il ne date pas d'hier. En ligne avec nous, Françoise Salvadori, bonjour.
Bonjour.
François Salvadori, docteur en pharmacie, en immunologie virologie. Vous avez signé avec Laurent-Henri Vigneault le très documenté anti-vax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours. On va commencer par un petit regard dans le rétroviseur. François Salvadori, cette résistance à la vaccination, ça remonte à quand?
Alors en fait, on l'a découverte depuis le début. C'est-à-dire avant même qu'on puisse vraiment parler de vaccination, quand on utilisait le pus d'un individu varioleux pour protéger de la variole. Donc bien avant toute science immunologique, bien sûr, bien avant Pasteur, comme les Français pourraient le penser, c'est une pratique qui vient sans doute d'Orient et qui a été rapportée par une certaine Lady Montagu, dont le mari était ambassadeur pour l'Angleterre à Constantinople, qui a rapporté ça comme une pratique de dames qui faisaient ça dans certains quartiers de Constantinople à l'époque.
Et aussitôt, il y a eu des détracteurs.
Alors aussitôt, il y a eu des détracteurs sur des motifs surtout attentat à la nature. On s'oppose à une sorte de religion, mais aussi tout simplement au début c'était une pratique barbare, une pratique qui venait de loin, de l'Orient, des sauvages, et surtout une pratique de femmes. Donc tout ça c'était de très très mauvais arguments pour démarrer.
Alors aujourd'hui on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui. Le mouvement anti-vaccination, comment le définir? C'est plutôt une nébuleuse impalpable ou ce sont vraiment des groupes bien constitués?
Alors ce sont des groupes bien constitués quand même, ceux qui sont vraiment le noyau dur, hein, ce qu'on appellerait vraiment des antivax assez militants, qui vont malheureusement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, finir par convaincre des gens qui étaient mollement sceptiques ou qui avaient quelques petits soupçons, mais qui vont devenir à leur tour de plus en plus, je dirais pas radicaux, mais convaincus que finalement cette vaccination, c'est pas bien.
Est-ce qu'on peut parler, François Salvadori, d'un phénomène international où il se cantonne à certaines régions du monde?
Alors, celui qu'on a plus étudié, nous, c'est qui, je pense, est finalement le plus étonnant pour des scientifiques, peut-être, c'est que c'est un problème de pays riches, de gens qui, finalement, ont vu disparaître des maladies, pour lesquels le quotidien n'est pas marqué grandement par des épidémies graves. Là, c'est le phénomène, la vaccination victime de son succès, qui est bien connu. Quand on ne voit plus les maladies, on ne pense plus qu'aux inconvénients des vaccins, en oubliant les inconvénients, et bien sûr les drames des maladies elles-mêmes.
Et est-ce qu'au-delà de cette rougeole dont on parle aujourd'hui dans Priorité Santé, d'autres maladies, d'autres flambées épidémiques, illustre justement les conséquences concrètes d'une forme de recul de la couverture vaccinale?
Alors, on peut citer l'exemple malheureux de la polio, qui actuellement fait très peu de victimes, heureusement, mais ce sont des résistances souvent religieuses intégristes, on peut dire, qui empêchent l'éradication absolue de cette maladie au niveau mondial.
Donc là, c'est différent au niveau géographique, là, on n'est plus dans une logique de pays riches, mais on est dans une de questions plus d'obscurantisme.
Pour la polio, oui. Dire oui, c'est ça, puisque c'est les talibans au Pakistan et Boko Haram au Nigeria.
Alors, on parle, François Salvadori, justement des mouvements anti. Maintenant, du côté, on parle de santé publique aussi, des pouvoirs publics, des autorités de santé. Est-ce qu'il y a des réponses, des moyens pour répondre à cette défiance?
Alors, je pense qu'il y a évidemment un gros effort à faire pour coloniser, je peux dire, les réseaux sociaux et pour s'y installer assez durablement et efficacement contre les rumeurs et les fake news qui circulent. Le problème, c'est que, selon moi, c'est pas seulement une question d'information. Il y a des gens très informés qui restent dans des croyances. Et finalement, l'antivax contemporain, c'est davantage un problème d'individualisme, de refus d'une sorte de médecine de masse, que certains appellent la médecine de troupeau, parce qu'on est tous vaccinés par les mêmes vaccins, et que finalement, l'obligation renforce cet aspect que les gens rejettent. Je pense que les gens préféreraient peut-être un dialogue singulier avec leur médecin plutôt que qui réussirait peut-être à les convaincre. La place du médecin et peut-être du pharmacien est à rediscuter. Et je ne crois pas que dans ce thème, dans ce domaine, l'obligation ait été un grand progrès, personnellement.
Sur quoi vous distinguez du professeur Catherine Veil-Olivier. François Salvadori, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je rappelle le titre de votre ouvrage Antivax, la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours. Justement, Catherine Veil-Olivier, je voulais vous poser cette question sur la réponse des pouvoirs publics. Il y a l'obligation vaccinale comme réponse.
J'ai été très intéressée par ce qui vient d'être dit et je le comprends et je partage beaucoup des positions énoncées. Néanmoins, je crois qu'une éducation de la population, notamment dans ces bouffées épidémiques, pour faire comprendre le bénéfice de la vaccination sans tarder pour protéger les enfants, je crois au potentiel éducatif. Il y a des messages qui sont compréhensibles quand ils sont exprimés simplement dans ce domaine-là aussi. Et je pense qu'on peut gagner du terrain et convaincre. Je crois aussi que chercher à convaincre des gens formellement opposés, c'est consommer énormément de temps. Personnellement, il me semble plus utile de parler à ce qu'on appelle les hésitants, c'est-à-dire ces personnes qui iraient volontiers se faire vacciner mais qui ont quelques réticences, ou des gens qui se sont fait vacciner mais qui ont quelques doutes. Voilà, ça regroupe ces deux catégories. Et je pense qu'il est totalement fondamental d'avoir un dialogue singulier, soit à l'échelle du pharmacien, soit par un professionnel de santé qui soit disponible et formé lui aussi à expliquer simplement ce qu'est la maladie, ce qu'on peut attendre du vaccin pour essayer de replacer les choses dans un cadre de bon sens.
Vous êtes professeur spécialisé en vaccinologie. Est-ce que ce courant critique à l'encontre de la vaccination, il s'exprime du côté des bancs de la fac de médecine ou pas?
Je crois surtout que dans les études de médecine, au jour d'aujourd'hui, mais ça n'est pas propre à la France, c'est vrai dans toute l'Europe, très peu d'heures sont consacrées à la vaccinologie. Il faut attendre le troisième cycle, c'est-à-dire après le doctorat, pour que des groupes de personnes très intéressées par la vaccination s'inscrivent à des diplômes interuniversitaires. Il en existe d'excellents en France, dont au moins deux ou trois à Paris, qui permettent une formation avancée, complète, sur l'ensemble des maladies et leur prévention vaccinale.
Alors, on a beaucoup parlé des sceptiques, notamment ses parents sceptiques. Et je vous propose à présent d'écouter une voix, c'est celle d'un jeune garçon. Il est américain, il s'appelle Ethan Lindenberger. Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Oui, vous l'avez déjà entendu. Oui. Alors, cet adolescent, il a fait parler de lui en postant sur le réseau social Reddit un message vidéo de lui-même pour se démarquer de ses parents. Il fait sa crise d'adolescence, mais du côté scientifique. Ses parents sont anti-vax. Ce garçon de 18 ans, il prend la parole pour revendiquer son droit à l'immunisation.
I decided that vaccines were the J'ai décidé que les vaccins, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma santé, comme pour celle des autres. Je me pose cette question non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et mes sœurs qui pourraient attraper une maladie dont on peut se protéger. Je suis aussi respectueux que possible de mes parents. Ce n'est pas qu'ils soient méchants, ils sont juste mal informés. Je me souviens que lorsque je suis allé voir sur les réseaux sociaux, à chaque fois que ma mère partageait une vidéo ou un post concernant les vaccins et présentait ses propres arguments, de nombreuses personnes répondaient en essayant de lui expliquer qu'elle se trompait. Cela la déstabilisait et la mettait même en colère. Vous savez, en tant qu'adolescent, et spécialement vers 13 ou 14 ans, vous vous dites, c'est bizarre, pourquoi maman se met-elle en colère lorsqu'on parle de ça? Et là, je me suis dit, ok, il y a eu des études et j'ai cherché à savoir ce qu'était la vaccination. J'ai pris conscience que tout ce que j'avais appris en cours de sciences sur le fonctionnement de notre système immunitaire, sur les raisonnements, tout cela était très logique et reposait sur des bases scientifiques solides. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon cas n'était pas un cas isolé. Ce que nous devons faire, c'est continuer à affirmer que la vaccination est quelque chose de positif et qu'elle s'appuie sur de solides bases scientifiques. Et pour les jeunes qui sont dans la même situation que moi, si vous voyez que vos parents n'ont pas la même façon de voir les choses et que vous voulez qu'ils comprennent, cela ne vous donne pas le droit de leur manquer de respect. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace sur le long terme de leur témoigner du respect. Et s'ils vous disent « tu devras attendre d'être majeur si tu veux être vacciné », laissez tomber. Et soyez sûr que, quoi qu'il en soit, vous avez fait le bon choix et dès que vous en aurez l'âge, faites-vous vacciner. C'est vraiment important.
Démarche sanitaire salutaire de ce jeune garçon. Votre réaction, professeur Catherine?
Très beau témoignage. Ouais. Plein de bon sens, très humain en même temps, car la notion de respect de l'autre est pour moi quelque chose de fondamental. Mais il explique parfaitement comment de bases scientifiques, dont j'admets tout à fait qu'elles n'ont pas à être à la disposition de tout le monde, que tout le monde n'a pas envie de s'y intéresser, en tout cas, jusqu'au geste vaccinal qui, lui, peut être complètement expliqué avec les bénéfices attendus, éventuellement quelques événements indésirables qui ne sont pas cachés, qui sont trouvables très facilement là aussi sur Internet. Et je voudrais glisser au passage que nos autorités de santé ont énormément progressé dans le système d'information, mettent à disposition de la population un site qui s'appelle Vaccination Info Service, qui est de très bonne qualité, sur lequel toute personne peut poser des questions. Et nous, pour les professionnels de santé, nous sommes un groupe de personnes dédiées à la vaccination dans le cadre d'InfoVac France qui répondons aux professionnels de santé inscrits sur ce site.
Alors, on va voir une autre illustration. On est passé par l'Ukraine, on est passé par les États-Unis. On a eu nos auditeurs, notamment à Madagascar et au Burkina Faso. Et maintenant, autre illustration sur l'impact de cette flambée de rougeole dans le monde, puisqu'on part pour la République démocratique du Congo, le sud-est précisément, quatre provinces concernées. Au Katanga, au Lomami, Lualaba et Tanganyika. Autrefois, on appelait cette région la province du Katanga, une région sinistrée sur le plan sanitaire où sévit donc cette épidémie de rougeole. Médecins sans frontières a engagé sur place une opération d'urgence. En ligne pour nous en parler, on retrouve Juliette Alivillé. Bonjour Juliette Alivillé.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice projet pour MSF, infirmière de formation. Est-ce que vous disposez de chiffres en ce qui concerne cette épidémie de rougeole donc qui sévit actuellement dans l'ex-province du Katanga?
Oui, tout à fait. Donc ces épidémies de rougeole ont été déclarées début mars 2018. Donc dans la province de l'ex-Katanga, donc qui est à peu près un territoire aussi étendu que l'Espagne, qui a 6 millions d'habitants à peu près. Et depuis mars 2018, les équipes de Médecins sans frontières ont mené 7 campagnes de vaccination, donc dans les provinces que vous avez énumérées. Et nous avons donc vacciné 354 000 enfants et les pris en charge, parce que nous faisons aussi un volet prise en charge des soins globales. Nous avons pris en charge 3 734 enfants. Et actuellement, nous prévoyons de vacciner dans la province du Lualaba 50 000 enfants avec un volet également de prise en charge.
Alors justement, dans cette région de Lubumbashi, on a un auditeur, Jean-Paul, sur Facebook, il nous a posté un message. Ici en RDC, nous avons très peu de vaccins, nous avons souvent des ruptures de vaccins, alors que la rougeole est très contagieuse. Est-ce que c'est précisément en raison de la non-disponibilité de certains vaccins qu'on en est arrivé là dans cette région de RDC?
On va dire que c'est pas à cause de cette indisponibilité, mais vous avez aussi un territoire qui est extrêmement étendu, très rural, qui sont avec des villages du coup isolés. Il n'y a pas de route goudronnée, ce qui rend très très difficile l'accès par route et l'acheminement des vaccins et aussi de tout ce qui est aspect logistique, avec évidemment on parle de chaînes de froid avec les frigos, etc. Et ça,
donc,
évidemment...
Un problème direct d'accès aux soins en milieu rural, tout simplement.
Logistique.
Oui, tout à fait, oui.
Mais moi, je trouve que votre témoignage est extrêmement intéressant parce que vous le situez très bien dans un contexte logistique extraordinairement difficile, qui n'a malgré tout rien à voir avec nos logistiques européennes.
Bien évidemment.
Où nous pouvons traverser des indisponibilités de vaccins temporaires, mais néanmoins, nous n'avons pas ces difficultés d'aller sur l'ensemble du territoire.
Juliette Dalivillé, j'ai une dernière question à vous poser, c'est sur la réaction des populations, leur opinion. Comment est-ce que vous êtes accueillis quand vous arrivez avec ces grandes campagnes? Parce qu'aussi, c'est très important, justement, l'accueil de la communauté.
Oui, tout à fait. La communauté, comme je vous ai dit, c'est des villages qui sont très isolés. L'ex-Katanga aussi, c'est innervé avec énormément de rivières et de lacs. Donc, des villages parfois en autarcie, des gens qui n'ont et des enfants qui n'ont pas accès aux soins. Et ici, quand je parle d'ici, c'est pour la province du Lualaba. La communauté est très contente de voir arriver et de voir organiser une campagne de vaccination et ils réclament ces vaccins.
Merci infiniment pour ce témoignage, Juliette Dalivillé, coordinatrice du projet pour MSF, infirmière de formation.
RFI à Lubumbashi, 98 FM.
Ce qui se dessine, c'est qu'on a en fait deux situations bien différentes. Professeur Catherine Veil-Olivier, on a cette défiance, on va dire, des riches au nord. Je suis schématique, mais ça représente quand même quelque chose. Et puis, il y a ce problème d'accès aux soins au sud. Or, les populations les plus vulnérables à la rougeole, à ces grandes épidémies, ce sont précisément aussi des populations qui subissent plusieurs fardeaux sanitaires, comme les populations du Sud.
Alors oui, je voudrais quand même revenir sur le terme riche pour dire que c'est un vaccin qui est accessible à tous. Et je crois là encore que le principe de vaccination, les stratégies vaccinales sont faites pour lutter contre l'absence d'équité au sein de notre population très diversifiée. Les vaccins sont accessibles à tous. Les vaccins contre la rougeole sont remboursés à 100%. Ils sont pris intégralement en charge par la Sécurité sociale. Et donc, c'est vraiment un principe d'équité, ces vaccinations. Et je trouve particulièrement dommage que ce principe ne soit pas respecté dans notre population française au jour d'aujourd'hui.
Avec justement cet accès aux soins de bonne qualité, contrairement à ce qu'on vient de voir avec l'illustration de la République démocratique du Congo.
Oui.
C'est quelque chose qui est assez choquant, ce regard aujourd'hui. On a des enfants qui sont l'année dernière morts en France de maladies évitables, alors qu'ils avaient tout sous la main pour l'éviter.
Alors, ça me permet de dire que tous ces cas, la grande majorité des cas de rougeole qui ont été observés, l'ont été chez des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Ce qui est vraiment la démonstration élémentaire et regrettable que la vaccination est extrêmement utile. Je redis que c'est un principe d'équité dans toutes les catégories de la population. Le vaccin est accessible à tous.
Vous enseignez, je l'ai dit, professeur Catherine Veil-Olivier, la vaccinologie. Est-ce que cette dimension éthique, elle fait partie de l'enseignement?
Ah oui, oui. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de la vaccination au sens large sans avoir cette dimension sociologique et humaine. C'est indispensable.
On a dit tout à l'heure avec le cas de l'Ukraine que finalement les gens avaient tiré les leçons de la catastrophe, de ce retour de l'épidémie, plusieurs dizaines de milliers de personnes touchées. Est-ce que cela veut dire d'une certaine manière que si les gens retournent se faire vacciner, on va assister à ce genre de phénomène de façon cyclique ?
Alors, vous avez parfaitement raison. Comme je vous l'ai dit, le principe de la vaccination, l'objectif de l'OMS d'ailleurs, est d'éliminer la maladie. Car on sait bien que le virus de la rougeole continuera à circuler à très bas bruit et en très faible quantité, car nous n'atteindrons pas 100% de couverture vaccinale. Et j'ai rappelé tout à l'heure que la vaccination n'est pas efficace à 100%. Il reste de l'ordre de 2% de personnes qui ne savent pas répondre à cette vaccination. Et donc c'est une question de structure immunologique probable face à un antigène qu'on leur propose. Mais néanmoins, il y a un objectif très clair d'élimination de la rougeole dans le monde qui est déclaré par l'OMS et notamment par la grande région Europe qui regroupe 53 pays.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de la rougeole. En France, ce retour avec des chiffres significatifs. Dans quelle proportion, quand la maladie est là, il y a hospitalisation ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'il y a donc la consultation qui pointe donc cette maladie à déclaration obligatoire maintenant ? Donc c'est recensé sur les statistiques de la santé publique. Est-ce qu'on sait la plupart des personnes qui sont hospitalisées, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a des complications qu'ils
elles
méritent
sont...
ou pour les isoler ?
Non, pas du tout. Elles sont hospitalisées parce qu'elles sont malades. Les deux complications les plus fréquentes et les plus potentiellement sévères sont la pneumonie, c'est-à-dire une infection liée au virus de la rougeole qui peut d'ailleurs se surinfecter avec une autre bactérie. Et puis cette encéphalite qui est une réalité, sans oublier une forme d'encéphalite rare mais terriblement grave et dévastatrice pour le cerveau, quand la rougeole est faite avant l'âge de 1 an chez des enfants tout petits, où le cerveau est en plein développement et beaucoup plus vulnérable, et c'est les pendencéphalites sclérosantes subaiguës, maladies dramatiques, dégénératives en quelques années. Donc vraiment, je crois qu'on a beaucoup d'éléments pour dire au jour d'aujourd'hui, puisque les personnes sont informées, elles ont accès à Internet, aux médias, à l'information. On voit partout poindre des bouffées épidémiques. C'est uniquement lié à une insuffisance de la couverture vaccinale, notamment de la deuxième dose. C'est lié à des régions ou à des îlots de population qui soit refusent, soit ne comprennent pas le bénéfice de la vaccination. Et donc, il faut vraiment revenir sur cette notion de solidarité. C'est une maladie qui peut être éliminée. C'est un des objectifs majeurs de l'OMS pour les prochaines années.
Merci beaucoup, professeur Catherine Veil-Olivier, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle, vous êtes pédiatre professeur honoraire des universités à Paris 7, spécialisé en vaccinologie.
Priorité Santé sur RFI.
Nous sommes le 28 février, c'est la journée internationale dédiée aux maladies rares. L'occasion aujourd'hui de vous donner la parole. Adèle Bouniff, bonjour.
Bonjour.
Adèle Bouniff, vous êtes déléguée régionale Grand Est de l'association Alliance Syndrome de Dravet. Alors vous êtes le père d'un enfant, d'une petite fille, c'est bien cela, qui est atteinte de ce syndrome. De quoi s'agit-il précisément, Adèle Bouniff ?
Alors le syndrome de Dravet, c'est une forme d'épilepsie rare, donc associée à plusieurs troubles. Il y a 350 personnes en France, donc c'est une maladie rare.
Comment est-ce que vous avez su que votre petite fille était concernée par cette maladie, Adèle Bouniff ?
Suite à un test génétique qui a été effectué à Paris, nous avons eu les résultats. Et notre fille est bien atteinte de la mutation du gène de ce syndrome de Dravet.
Elle avait quel âge quand le diagnostic a été posé ?
Elle avait 1 an et demi.
Et elle avait donc fait des crises. Vous avez parlé d'épilepsie. Est-ce qu'il y a les mêmes crises caractéristiques que pour la maladie ?
Oui. Donc il y a plusieurs. En fait, l'épilepsie, il y a plusieurs types de formes de crises. Et ma fille a fait plusieurs types de crises. Elle a fait des absences, des crises généralisées, donc des grosses crises d'épilepsie qu'on appelle les états de mal aussi. Mais elle a eu plusieurs types de crises. Hein.
Et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se porte ? Quelle est la nature de la prise en charge qui vous a été proposée ?
Alors aujourd'hui, elle est en IME, donc dans un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif. Donc elle a une prise en charge pluridisciplinaire avec des soins en psychomotricité, en kinésithérapie, en orthophonie aussi. Donc c'est une prise en charge assez lourde, mais assez complète.
Parce que cette forme d'épilepsie précise implique des retards psychomoteurs, implique aussi des retards d'acquisition du langage. Est-ce que votre petite fille parle aujourd'hui ?
Non, elle ne parle pas. Elle commence à développer le langage. Donc elle a c'est-à-dire qu'elle a des, on appelle ça des troubles de l'oralité. Donc c'est tout ce qui se trouve au niveau de la sphère buccofaciale. Et une orthophonie spécialisée en oralité permet de développer en fait un peu ces soucis.
Est-ce que ça implique aussi des complications en termes alimentaires ?
Au début, oui, elle avait vraiment des soucis au niveau de la mastication et des soucis au niveau de la variation des aliments. Elle était très très sélective sur certains aliments. Et avec le temps, ça s'améliore un petit peu.
Vous avez l'impression aujourd'hui que cette maladie a envahi votre vie, où vous arrivez, Adèle Boutif, à faire la part des choses, justement, entre ce syndrome de Dravet et puis la vie qui continue et la relation que vous arrivez à tisser avec votre petite fille?
Complètement, oui. Ça a été vraiment, c'est ce que je dis parfois, c'est comme une prise d'otage. Hein, le syndrome s'invite dans notre vie du jour au lendemain. Et l'épilepsie, c'est un peu comme une quatrième habitante qui fait partie de notre maison maintenant. Alors on essaie de faire avec au fur et à mesure, on essaie de trouver des techniques, on va dire, de résilience un peu, des techniques de prendre un peu sur soi au jour le jour et de tout mettre en œuvre pour mieux assurer son quotidien et sa prise en charge.
Alors vous avez écrit un livre, Adèle Boutif, un recueil de poèmes lié à votre combat contre cette maladie. Ce livre s'appelle « Celle qui m'a pris mon enfant, l'épilepsie ». Vous engagez dans une association créée comme ça à travers la littérature, ça vous a apporté quoi ?
Bah, tout d'abord, ça m'a permis à moi de pouvoir exulter déjà mes mots, M-A-U-X, hein, avec les mots. Donc, cette association m'a permis de pouvoir découvrir d'autres familles qui avaient le même syndrome que ma fille, de pouvoir échanger, pouvoir trouver des solutions sur les problèmes du quotidien. Donc c'est un véritable apport, un véritable support surtout. Et cette association permet de soutenir d'autres parents, ça nous permet de pouvoir... de financer des week-ends de répit pour certains parents qui n'ont pas les moyens financiers. Ça permet de financer certains dispositifs techniques, comme des détecteurs de crise, par exemple. Donc, c'est vraiment une grande aide, cette association.
Surtout quand on parle de maladies rares, avec des parents qui peuvent se retrouver dans des situations de très grand isolement au départ.
Tout à fait, oui. Au début, on se sent vraiment perdu. On vous dit que c'est un syndrome génétique incurable. Donc, on se dit qu'il n'y a aucune issue de secours. Incurable, déjà, le terme est assez lourd. Une maladie génétique en plus, ça veut dire quoi? Enfin, on se demande si c'est nous, si ça vient des ancêtres, ça vient de la génétique, c'est quelque chose d'assez vaste. Donc nous ne sommes pas porteurs du gène, et c'est d'autant plus difficile à accepter, parce qu'on se dit pourquoi nous finalement? Et 300 cas en France, c'est une maladie vraiment très très rare.
Merci infiniment pour ce témoignage, Adèle Boutif. Je rappelle le titre de votre livre, recueil de poésie, Celle qui m'a pris mon enfant, l'épilepsie, publié aux éditions du Net. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique Priorité Santé. C'est tout, Samaki, Ophélie Lassène, Baptiste Madigné, Didier Bleu. Demain, nous parlons du diabète, diagnostic, prise en charge, comment éviter les complications. On vous donne rendez-vous en direct des 9h du temps universel. Si vous voulez témoigner, 33 1 84 22 75 75 ou bien sûr notre page Facebook. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.